Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tout le monde, ceux que je n'aurais pas salués, je vous propose que nous fassions une première lecture. Alors, c'est lorsque nous nous réunissons, eh bien, c'est pour recevoir un message d'encouragement, ce qui est susceptible de fortifier notre foi, de nous faire du bien, et certainement de repartir avec de nouvelles forces, qu'elles soient physiques, morales, et puis également spirituel. Alors je vous propose que nous entretenions sur un sujet particulier cet après-midi. Ce sont les fatigues de l'existence, les fatigues de la vie. Vous savez qu'on entend les gens nous dire en cette fin d'hiver, « Eh bien, je suis fatigué. » Alors on y est peut-être passé soi-même, et on a du mal quelquefois à remonter, à recouvrer toute notre potentialité, notre énergie. Alors c'est vrai que ça l'est sur le plan physique, dans notre constitution, et puis ça l'est également à travers, peut-être sur le plan moral, dans les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés et que nous avons du mal à faire face. Et puis il y a aussi, peut-être pour les chrétiens, ceux qui sont confrontés avec des perplexités dans le domaine de leur vie spirituelle, leur foi. Ils se demandent, mais est-ce que je suis vraiment encore dans la foi? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je n'ai pas perdu la foi? Avec des combats, toutes sortes de choses. Alors je vous propose que nous fassions deux lectures. La première, nous allons la faire dans le livre du prophète Ésaïe et de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne se fatigue jamais. Quelquefois, nous pouvons nous le fatiguer, le Seigneur, hein, par nos inquiétudes, nos tracas, nos questions, on n'en finit pas de poser les mêmes questions. Et puis, on sait que lui, eh bien, finalement, il est toujours à l'heure, il est toujours présent. Alors, on va voir cela et puis, on verra cette belle invitation de Jésus dans l'évangile de Marc d'ici quelque temps. Alors voilà, donc, Ésaïe, je vous ai dit, chapitre 40, verset 28. Ésaïe. Voilà, livre du prophète Ésaïe, c'est dans le milieu de votre Bible, je vous dirai pas où, parce qu'il n'y a pas une Bible qui est pareille, enfin bon, il y a différentes versions. Et également, verset 27. Voilà, Ésaïe 40, verset 27. C'est une question que Dieu pose. Pourquoi dis-tu, alors naturellement à parler à Israël, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Alors écoutez bien. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Écoutez bien. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous reviendrons sur le sujet. Je vous propose maintenant que nous passions dans le Nouveau Testament, Évangile de Matthieu, chapitre 11. Comment ? Je vous ai dit Marc. Eh bien, j'ai changé d'avis, c'est Matthieu. Voyons. Mais vous voudrez bien m'excuser, c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, mais je vois que vous êtes attentif et ça me réjouit. Alors, Matthieu chapitre 11, et vous allez comprendre parce que des versets comme ça, on ne les oublie jamais. Alors, Matthieu 11, verset 26 plutôt. Voilà. Et nous lisons cette parole. J'en ai perdu ma page avec tout ça. Voilà. Allez, c'est bien. Verset 28. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je reviens au verset 28. Venez à moi. Invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a naturellement, à mettre en réponse à la fatigue des hommes, le repos. Voilà. Et c'est ce à quoi nous aspirons lorsque nous sommes fatigués. Nous avons envie de prendre du repos. Alors, il y a toutes sortes de propositions qui nous sont adressées, qui sont faites à celui qui est fatigué d'une façon ou d'une autre. Il y a un véritable repos. Et puis, il y a des repos illusoires. Il y a des repos qui, quelque part, nous fatiguent plus que nos fatigues initiales. Et là, naturellement, c'est très difficile d'y comprendre quelque chose. Mais vous savez que dans l'histoire biblique, il y a pas mal de personnages qui apparaissent, qui se font jour, et dont l'histoire, est une histoire de fatigue, pour différentes raisons. Je cite pour mémoire, avant d'aller un peu plus loin, mais vous savez que un jour, Jésus a fait la rencontre d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait un problème, c'est-à-dire qu'elle avait une perte de sang qui perdurait depuis des années. Et elle le dira, elle le confessera que elle est allée voir beaucoup de médecins, beaucoup de gens qui pouvaient prétendre lui apporter du soulagement et du repos, et qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent, mais sans aucun soulagement. Cette personne, quand elle a rencontré Jésus, a véritablement trouvé le repos, à travers une guérison miraculeuse, à travers tout simplement un saisissement par la foi, en touchant le bord du vêtement de Jésus, et après tant d'années d'espoir, de lassitude, de découragement, d'espérance trompée, elle a véritablement découvert ce qu'était le vrai repos, elle a été guérie. Et nous y reviendrons sur le phénomène de nos états physiques, de nos fatigues, et également de l'intervention de Dieu qu'il peut apporter. Il y avait aussi une autre femme, je le cite tout simplement par la pensée. Cette femme, elle avait un problème qui était un problème qui durait depuis 18 ans. Elle était courbée. Et l'existence allant, elle était courbée de plus en plus, 18 ans. Et elle était fatiguée. Fatiguée dans son état. Elle ne pouvait regarder que la terre, puisque il y avait quelque chose qui était bloquée, cassée à l'intérieur d'elle-même, et c'était une fatigue terrible. Elle n'avait, depuis de nombreuses années, jamais pu considérer ce que pouvait être le ciel au-dessus de sa tête. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Puis un jour, alors qu'elle était venue dans la synagogue, elle s'est trouvée toute petite parmi les autres, naturellement, compte tenu de sa situation. Et Jésus s'est adressé à elle. Il y avait beaucoup de monde, il y avait certainement foule dans cette synagogue. Et Jésus lui a adressé la parole avec un simple mot. Il lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et là, spontanément, elle s'est mise à se redresser. Elle était fatiguée, fatiguée d'être cassée, fatiguée d'être courbée, fatiguée de ne pas pouvoir vivre comme tout le monde. Et ce jour-là, ça a été véritablement le grand jour de sa vie, parce qu'elle est rentrée dans le repos. Elle a recouvré sa santé, elle a pu être et vivre comme tout le monde. Ce sont des fatigues. Quand vous êtes atteint d'une maladie chronique et que vous cherchez de droite et de gauche, vous allez d'un espoir à un autre et souvent déçu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il peut y avoir notre corps qui est brisé, qui est coincé, qui est cassé. Mais que dire de l'âme? Les fatigues de l'âme, ça existe aussi. En disant, mais quand est-ce? Quand je pourrai vivre? Quand est-ce que je pourrai retrouver finalement une vie normale? Alors, on rencontre dans tous les temps, dans toutes les histoires de la Bible et encore aujourd'hui, des gens qui sont fatigués de vivre parce que la vie ne correspond pas à ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire en pleine santé, qu'elle soit physique ou morale. Puis il y a des gens aussi qui sont, si vous ajoutez à cela, des gens qui sont fatigués de souffrir. Parce que vivre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois de maladie, mais quand vous vivez toute votre vie dans la maladie, c'est autre chose. Quand vous avez un problème récurrent, un problème qui ne qui ne disparaît pas. Alors, là, on peut véritablement considérer que c'est notre problème numéro un. Et on est fatigué. On est déjà malade, mais vient s'ajouter à cela une terrible fatigue qui nous écrase. Et on se dit, mais c'est pas possible. Cet après-midi, nous nous sommes réunis et je crois qu'il y a un verset, peut-être, qui est le verset approprié. Je le cite tout simplement. Ça se trouve dans le livre des Proverbes au verset 25 et au chapitre 25. Vous savez ce qu'il nous est dit? Je ne sais pas si vous en souvenez. Il nous est dit, comme de l'eau fraîche. Quand on est fatigué, vous savez ce qu'on a recours? Eh bien, c'est à de l'eau. Mais de l'eau, pas n'importe laquelle, hein, de l'eau fraîche. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Alors peut-être que les uns et les autres, nous ne sommes peut-être pas venus de très loin, mais en tous les cas, le partage et de pouvoir se désaltérer cet après-midi, eh bien, est à la portée de tous. Et c'est tout simplement, eh bien, par la faculté que Dieu nous a donnée d'écouter, de réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes, d'entendre cette parole, et peut-être dans le silence de notre moi profond, de pouvoir peut-être faire monter cette simple prière, parce que l'Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous nous incite à regarder davantage vers le ciel que de regarder vers la terre pour trouver une solution. Et à ce moment-là, peut-être de faire monter une prière en disant « Seigneur, mais ça me concerne cette parole. Finalement, je suis en train de me battre et de me débattre. Vainement, je m'épuise et plus je fais des efforts et puis plus finalement, eh bien les choses s'éloignent de moi, c'est comme un mirage. J'ai cru et j'en finis par ne plus croire. Où est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Est-il celui qui entend mes prières? Ou peut-être, si vous ne connaissez pas encore qui est le Seigneur, vous allez tout simplement entendre cette parole, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alors cette parole, elle est belle. Elle est belle pour plusieurs raisons. Parce que, comme de l'eau fraîche, la fraîcheur, le rafraîchissement, le soulagement, la paix, le repos à l'intérieur, pour une personne qui n'en peut plus, qui a marché dans un désert immense, qui a marché nuit et jour, qui a marché dans la chaleur et dans l'aridité de ses peines et de ses souffrances. Alors une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Certes, cette bonne nouvelle de l'Évangile est venue pour nous d'une terre lointaine, la Palestine, il y a si longtemps, du temps des patriarches Abraham, Moïse, David. Mais elle a pris toute sa raison d'être, elle a pris toute sa force et elle est venue comme un jaillissement de lumière, cette bonne nouvelle. Lorsque Jésus a posé les pieds sur la terre, lorsqu'il est venu parmi les hommes et nous a dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », aucun des prophètes, aucun des grands hommes de foi auparavant n'avait dit ces paroles. Jésus est venu de par le monde, eh bien pour dire maintenant « Relevez vos têtes, il y a un espoir, il y a quelque chose. Je ne suis pas venu les mains vides, je viens du ciel et je vous apporte les bénédictions du ciel et de la grâce de Dieu, si vous voulez bien sûr le croire. » Alors cette eau fraîche, elle est pour chacun d'entre nous qui écoutons cet après-midi. Et si vous avez également, si vous êtes dans la configuration, que vous êtes fatigué, eh bien écoutez. Écoutez parce que c'est pour vous. Et à travers tous les siècles, à travers tous les temps où les hommes ont été confrontés avec cette parole, ça l'a été aussi un beau jour pour nous. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous ne le sommes devenus à travers une rencontre. Pas n'importe quelle rencontre, pas la rencontre d'un homme ou d'une femme, mais la rencontre de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais comment vous avez fait pour rencontrer Jésus-Christ? Il est invisible. Ben oui, mais justement, c'est ça tout le mystère de la foi, qui n'en est plus un mystère. Lorsque nous percevons, eh bien, le sens des paroles de Jésus, c'est que nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré dans notre vie parce que nous avons crié à lui. Je dis bien, pas seulement crié, mais crié à lui. Dans des moments de détresse, dans des moments d'immense fatigue. Et là, nous avons vu que le ciel n'était pas vide. Il y avait quelqu'un qui nous a entendus et qui nous a exaucés. C'est pourquoi nous sommes là et nous sommes là pour rendre témoignage. Et c'est ça, justement, la beauté de l'Évangile. C'est pas d'aller dans un endroit ou d'un autre, dans une église, dans une chapelle, dans un temple, ou ceci et cela. Non, c'est pas ça. La véritable rencontre avec Jésus-Christ, c'est de le rencontrer intimement dans notre cœur, de lire la Bible. Lisez la Bible, c'est quelque chose de formidable. C'est là où Dieu parle aux hommes. Et il nous donne des paroles. Il nous dit ceci, mais c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance, parce que le chemin n'est pas fini. Quelquefois, nous disons, eh bien, je n'en peux plus, Seigneur. Je suis tellement épuisé, tellement fatigué, je veux mourir. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas ceux qui veulent mourir qui meurent. parce que la vie continue. Et la vie continue peut-être pour que nous le rencontrions, comme il se doit, comme notre sauveur, notre libérateur et celui qui va nous bénir cet après-midi. Alors, de venir à Jésus, c'est important. Il est là, il est présent. Ce n'est pas seulement une habitude pour nous lorsque nous nous réunissons de chanter des cantiques et de prier. Ce n'est pas seulement une habitude, mais c'est quelque chose qui a une autre importance, qui revêt une importance tout à fait particulière, parce que lorsque nous demandons à Dieu de bénir une réunion comme celle-ci, de nous bénir les uns et les autres, c'est que nous savons que Jésus et la guérison, les délivrances, eh bien, sont au prix, nos délivrances sont au prix de ce que Jésus est mort sur la croix, et que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris, et que non seulement il est mort pour moi, mais qu'il est ressuscité, donc il est vivant, et je peux le prier, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant. Et c'est ça la grande différence. Alors, les fatigues de l'existence, ou la fatigue, on le mettra au singulier et au pluriel, en tous les cas, quand ça nous concerne, on sait ce que ça veut dire. Il y a une fatigue dans le monde de toujours, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la fatigue de la culpabilité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Où il y a des âmes, où il y a des consciences qui ne sont jamais en repos, parce que leur passé est chargé, parce qu'ils ont une sensibilité d'âme qui les ramène toujours au mal, ou à ce qu'ils ont fait du mal, ou peut-être même au mal que l'on aura fait. Il n'arrive pas à s'en dégager. Et la fatigue de la culpabilité, on le voit. On le voit particulièrement dans le monde autour de nous, mais on le voit aussi parmi les hommes et les femmes de foi qui sont qui ont du mal peut-être à croire que Dieu leur a pardonné. Je dis bien que Dieu leur a pardonné. Et la solution, eh bien, elle est toute trouvée puisqu'elle remplit les pages de nos évangiles. C'est que Jésus est mort pour nous, pour faire la rémission de nos péchés, pour faire l'expiation de nos fautes. Et à partir du moment où nous reconnaissons que il a fait ceci en lieu et place pour vous, pour moi, eh bien, si je lui demande pardon, eh bien, je suis pardonné. Et il faut que moi, je croie que Dieu m'a pardonné et qu'il faille que je me pardonne moi-même. Et le problème de la culpabilité, c'est que peut-être que nous pouvons croire que Dieu nous a pardonné, mais nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Et qu'il y a un ennemi qui est toujours en train de nous tenailler, qui est toujours en train de nous bousculer en disant « Mais ton Dieu, là, tu sais, ce que tu as fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein? » Et d'essayer de pouvoir nous ramener le passé, un passé qui est révolu, un passé qui est fini, qui a été effacé, et de nous le ramener aujourd'hui en permanence pour nous dire « Mais écoute, tu n'es pas pardonné. » et nous ramener nos anciennes fautes, et ça nous obsède, et ça nous rend profondément malheureux. Moi, je voudrais vous dire, si vous êtes en culpabilité, demandez pardon à Dieu. Croyez que Jésus est mort à votre place, qu'il a pardonné totalement et complètement, parce que nous sommes au bénéfice de cette belle prière qui descend de la croix, première prière que Jésus a laissée au monde, au moment où il a été crucifié, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Le pardon, il est acquis si nous le reconnaissons et que nous le croyons. Alors à ce moment-là, eh bien, nous allons voir et nous allons faire cette expérience que si nous lui demandons pardon sincèrement, eh bien, et que nous le saisissions, eh bien, vous allez voir, et ça c'est véritablement l'amorce d'une véritable transformation de vie, c'est comme il y a comme un poids qui se dégage de nos épaules, de notre conscience, et une des premières caractéristiques, c'est la joie et la paix de Dieu. C'est ça la délivrance de la culpabilité. Alors si vous êtes culpabilité, si vous êtes fatigué de lutter dans vos pensées, dans votre conscience, qui est toujours en train de vous reposer, de vous reprocher avec des remords et de regrets, eh bien déposez votre fardeau auprès du Seigneur, et il va vous enlever cette fatigue. C'est épuisant la culpabilité. C'est jour et nuit, c'est terrible. Et puis il y a la fatigue d'une vie telle que la nôtre aujourd'hui, où tout doit être fait dans l'immédiat et dans la précipitation. Vous ne croyez pas qu'on vit un monde comme ça? C'est terrible. On est compte, hein, les gens se plaignent, hein, parce qu'on a 24 heures dans une journée, mais il faudrait qu'il y en ait 30. Hein. Hein, en 8 heures de travail comprimé, il faudrait qu'il y en ait davantage, parce que les gens n'arrivent pas à suivre. Ouais, on est loin de cette époque où les gens, eh bien, prenaient le temps de travailler, le temps de se reposer, le temps de faire des breaks. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens n'en peuvent plus. Hein. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, mais quelle vie! Et peut-être nous pouvons être fatigués jusqu'au désespoir dans ce monde où il faut se battre. Il faut avoir de l'agressivité, ou si vous ne l'êtes pas, on le sera pour vous, hein. On va vous bousculer, et les gens n'en peuvent plus. Cette fatigue-là, eh bien, Jésus l'a prise. Il est venu nous donner précisément le repos. Vous savez, quand nous l'avons lu tout à l'heure, et moi je vous donnerai du repos. Déposez vos fardeaux. Un monde où nous avons de plus en plus de gens qui sont inadaptés à notre monde de société, parce qu'il faut dire que c'est un monde endiablé, hein. Et ils n'arrivent plus à suivre, ils sont complètement étranglés et ils sont asphyxiés. Eh bien pourtant, la Bible nous demande de prendre le temps nécessaire. Vous savez, Jésus l'a démontré d'une manière admirable. Quand à un moment donné, les disciples, il les avait envoyés, là, les 70, guérir les malades, faire des choses extraordinaires, ils sont venus tout excités en disant « Mais ça marche! Nous avons, par ton nom, eh bien, guéri des malades, fait marcher des lépreux, enfin, purifier des lépreux, excusez-moi, et marcher des paralytiques. » Et Jésus leur dit « Écoutez, c'est bien comme ça. Vous revenez maintenant, mais vous allez vous reposer un peu. Parce que vous savez que Dieu est bienveillant avec nous. Il y a des gens qui pensent que Dieu est malveillant, c'est pas vrai. Dieu est bienveillant avec tous les hommes. Et il ne veut pas que nous soyons au-delà de nos possibilités de vie. Et quand il faut se reposer, il faut se reposer. Je le dis peut-être à ceux qui sont super actifs parmi nous. Ils ne peuvent pas prendre un moment pour rester tranquille, pour se reposer, pour s'asseoir. Enfin, n'y voyez pas. Voilà, mais c'est vrai que c'est une nature, c'est un tempérament. Et on lutte contre ça et on se fatigue. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était toujours remonté parce que on se dit, si je m'arrête, je vais faire de la déprime. Hein, les gens ne savent pas s'arrêter. Mais ils se rendent malheureux. Ils anticipent déjà sur un temps où là, ils vont devoir s'arrêter, mais beaucoup plus longtemps. Parce que ça sera beaucoup plus conséquent et grave. Il y a des fatigues occasionnelles pour un moment. Il y a des fatigues momentanées, ça c'est vrai. Et puis il y a une fatigue tout à fait particulière pour ceux qui ont une conscience de Dieu. Une conscience, je dirais, la conscience du sacré, vous comprenez? Ils aiment Dieu. Et ils voudraient faire quelquefois ce que Dieu ne leur demande pas. Et nous avons, par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, je le lis, je le cite tout simplement au chapitre 28, Cette parole, nous allons le retrouver. Alors, Ésaïe, nous étions déjà dedans. Ésaïe chapitre 28 et verset 12. C'est peut-être un des caractères particuliers de ceux qui vivent bien ces choses. Voilà. Il lui disait, voici le repos. Dieu dit, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Je souhaite que la parole de Dieu cet après-midi, et quand vous lisez votre Bible ou quand vous la lirez chez vous, elle soit un temps de repos, un lieu de ressourcement, un lieu où vous allez pouvoir souffler et un lieu où vous allez pouvoir vous rafraîchir avec cette eau pure. Alors voici le lieu de repos. Mais écoutez, voilà ce que Dieu constate pour le peuple d'Israël, parce que ça s'adressait à Israël, mais ça peut très bien s'adresser à nous. Il nous est dit, ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, et qu'ils soient enlacés et pris. Je voudrais vous dire quelque chose, et vous ne m'en voudrez pas de vous l'avoir dit, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il y a des gens qui sont toujours excessifs. Parce qu'il y a un idéal. Parce qu'il y a quelque chose de le beau. Toutes ces choses qui appartiennent à ce monde divin, de cette créature divine, il faut bien se rendre compte que nous sommes des hommes et qu'il faut rester dans la modestie, il faut rester dans l'humilité parce que nous sommes dans un vase de terre qui contient un trésor et notre vase de terre, c'est à la fois notre âme et notre corps. Et là, à ce moment-là, on peut tomber fanatique. On peut tomber dans les excès. Vous savez, aujourd'hui, le monde est un monde où on n'a jamais parlé autant d'intégrisme politique, d'intégriste philosophique, ou d'intégrisme, enfin, quoique la philosophie, c'est encore une autre chose. Mais peu importe, intégrisme religieux. Et je crois qu'il faut garder les choses et penser que les uns et les autres, nous avons tous une personnalité, nous avons un tempérament, nous avons ceci et cela. Ça n'exclut pas que nous pouvons vraiment aimer Dieu. Mais quand on voit le peuple d'Israël, c'était le temps l'un tout l'autre. Soit ils abandonnaient Dieu, et quand ils le servaient, c'était pour un temps, momentanément, mais ils poussaient les choses à l'excès. Il n'en faisait plus. C'était le cas des pharisiens. Voilà. Ça me vient à l'esprit. Les pharisiens pensaient que Jésus, c'était vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il nous parle du royaume de Dieu. Il nous dit des choses qui sont peut-être fort intéressantes, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que nous sommes au-dessus. Nous sommes bien meilleurs que les autres. Nous allons au temple plusieurs fois par jour. Nous donnons nos offrandes. Nous faisons ceci et cela. Ils étaient tombés dans l'orgueil spirituel sans s'en apercevoir. Et ils devenaient à ce moment-là juges et intraitables, impitoyables avec les autres. Et nous le voyons, ne poussons pas les choses à l'excès. Vivons ce que Dieu nous donne. Et surtout, n'obligeons pas à vivre ce que les autres ne sont pas capables de vivre, si nous, nous sommes capables de le faire. Donc ça, on pourrait dire que, en quelque sorte, c'est une forme d'épuisement, parce que je me suis aperçu que ceux qui poussent les choses trop loin, même dans les choses de Dieu, où Dieu ne nous le demande pas, ils en arrivent à un épuisement psychique et spirituel. Et quelquefois, nous voyons et nous trouvons, nous rencontrons dans l'Église, particulièrement pour des gens qui ont une noble consécration, qui ne s'arrêtent pas quelquefois au détriment de leur famille, au détriment de leur couple. Mais écoutez, le Seigneur a donné des familles, il a donné des couples, et nous devons pouvoir entretenir et avoir l'équilibre dans tout cela. Et ça nous est arrivé quelquefois de voir des hommes et des femmes venir nous voir qui ont poussé les choses tellement loin qu'ils sont tombés dans une déprime, mais pas possible. Alors après, il a fallu qu'ils se reposent. Moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, hein. J'avais une trentaine d'années et je poussais vraiment les choses par rapport au Seigneur et par rapport... Ça se voit pas comme ça, hein. Non, mais c'est une vérité. Et je me souviens que Dieu m'est parlé un jour que j'étais au lit, dans une déprime, mais bien bonne. Enfin, je sais pas si elles sont bonnes ou... Enfin, je sais qu'elles sont toujours mauvaises. Mais quand on dit bonne, c'est qu'elle était, bien étoffée, hein. Et Dieu m'a donné cette parole dans la Bible. Il m'a dit, ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ah ouais, je l'ai payé. Je l'ai payé avec... pour remonter, ça a été difficile. Parce que je l'étais autant pour l'œuvre de Dieu que dans mes responsabilités professionnelles, où je poussais les autres. Et je leur disais, non, il n'y a rien à faire, il faut que ça soit fait, etc., etc. Quand on y est passé soi-même, on est un petit peu plus compatissant. Donc il y a derrière cela, eh bien, une forme de légalisme ou de légalité qui amène à l'épuisement. Vivons ce que nous avons à vivre. Et bénissons le Seigneur. Et ne jugeons pas les autres, surtout ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront plus fatigués que nous, hein, et qui n'en pourront plus. Il y a également la fatigue de l'âge. Et là, c'est tout à fait respectable. Et c'est là aussi, il ne faut pas se laisser culpabiliser, parce que j'entends quelquefois des gens qui viennent me voir, qui me disent, Alain, j'aimerais bien faire encore tant de choses pour le Seigneur. J'aimerais bien aller porter le témoignage, faire ceci et cela. Puis quelquefois, certains viennent me voir, ils ont déjà 80, 85 ans. Oh, dis, je peux plus. Je leur dis pas, allez, faut sortir, il faut y aller, hein. Je lui dis, mais il y a un temps à tout. Alors ne vous culpabilisez pas, parce que ça peut être un tourment. Quand ils voient les plus jeunes, ou quand ils voient les jeunes courir et faire ceci et cela, ils ne peuvent plus, mais c'est normal. Voilà. Peut-être que Dieu nous renvoie dans notre temps de vieillesse à une réflexion, il nous renvoie à nous-mêmes, en disant, prépare-toi. Parce qu'à un moment donné, eh bien, tu vas rencontrer ton Seigneur, mais d'une manière réelle, là, hein. Voilà. Il faut tout vivre tout ça dans la paix. Alors ne vous culpabilisez pas, ne vous rendez pas malade, parce que Dieu nous a donné un temps de vie, il veut nous bénir, et quand dans nos fatigues, n'ajoutons pas fatigue à fatigue et des fatigues qui seraient inutiles. On est déjà assez fatigué comme ça, hein. C'est déjà pas mal. Alors, la fatigue due à l'âge, le surmenage physique et intellectuel. Aujourd'hui nous sommes dans un monde où le travail manuel disparaît, enfin il y a toujours certainement... Hein, des artisans et des artistes, hein. Mais faut se compliquer la vie, hein. C'est pas toujours très simple. Et on en arrive dans notre société à des gens qui ont des responsabilités ou non. Et à cause de la pression, à cause de cet impératif productivité, flux tendu et tout ce que vous voudrez, vous avez appris, hein. Dans les journaux, ça défraie la chronique, hein. Des gens qui n'arrivent plus à supporter et qui se suicident. Ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. C'est terrible. Alors ça, c'est pas un monde. C'est un monde cruel, c'est un monde impitoyable, mais le monde de Dieu, c'est pas ça. Alors quelquefois, il faut savoir prendre un petit peu de distance et tout cela. Il y a également, peut-être pour les enfants de Dieu, la fatigue qui est liée au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat de tous les jours, c'est vrai. Paul nous dit, combat le bon combat de la foi. En tous les cas, garde la foi au fond de toi-même, mais... Faisons et prenons que ce que nous avons la possibilité de faire. C'est vrai que nous l'avons dit ce matin, c'est l'apôtre Paul qui était un géant de la foi, Paul. l'apôtre. Et il a tout mis véritablement, toute sa vie, hein, toute sa consécration a été pour Dieu. Et il avait compris à un moment donné qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Et il dira, mais qui peut être suffisant pour ces choses? Je le dis aussi peut-être à l'encontre, enfin pas à l'encontre, mais à l'adresse de ceux qui aimeraient tellement sauver le monde entier. Ben, je voudrais vous dire qu'on ne sauvera pas le monde entier. Il y en a un qui le sauve, c'est Jésus. Et par la foi. Et quelquefois, lorsque nous voyons toute la misère autour de nous, lorsque nous voyons ces pauvres gens qui sont à l'extrémité de la terre, et quelquefois même pas loin de nous, des enfants qui sont pris dans la guerre, des enfants qui n'ont pas à manger, des familles qui sont là, broyées par la folie de tyrans et toutes sortes de choses, il y a un mouvement chez nous en disant « mais on va faire quelque chose pour eux ». Ben, on n'y arrivera jamais parce que notre terre est un océan de misère, hein, de souffrance et de peine. Maintenant, faisons ce qui est à notre portée. Hein, faisons ce qui nous est dans nos capacités. Et ça, c'est un combat aussi, un combat spirituel. Et une chose que Dieu nous donne, c'est que, comme il le dira lui-même, sans voix, vous ne pouvez rien faire. Alors, il y a des gens qui se sont épuisés. Combien de nos pasteurs, et combien de nos missionnaires, et combien de ceux qui sont envoyés, qui ont été envoyés dans le temps passé, qui sont devenus des hommes extraordinaires dont la mémoire est restée, qui sont morts prématurément. Bon, c'était leur choix, c'était comme ça, c'est vrai. Mais beaucoup ont laissé leur vie parce que, voilà, la tâche était trop grande. Je ne suis pas en train de juger ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils l'ont fait certainement de tout leur cœur. Mais dans certains cas, eh bien, ils n'ont peut-être pas su s'arrêter. Moi, je connais un pasteur qui est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a été à l'origine du mouvement de réveil en France dans les années 1930. Pour ne pas le nommer Douglas Scott, ben, il est mort dans une prédication parce que, voilà, il ne voulait pas s'arrêter, tout simplement. C'est terrible! Bien sûr, il avait fait une œuvre extraordinaire, vous vous souvenez, hein, et c'est quelque chose. On lui disait, ses collègues lui disaient, mais prenez un peu de repos, Monsieur Scott, etc., etc. Mais lui, c'était d'une soirée à une autre, il allait d'une ville à une autre et il prêchait l'évangile. Il y a eu des résultats extraordinaires, mais il est mort prématurément parce qu'il était relativement jeune. Voilà, celui qui est fatigué, nous avons cette promesse. Écoutez, il donne la force à celui qui est fatigué et il renouvelle, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais où allons-nous chercher finalement le ressourcement? Toute la question est là. Je voudrais vous donner un aspect des choses, une note, c'est que la fatigue, quelle qu'elle soit, physique ou morale, diminue nos facultés de bien réagir. Vous avez remarqué? Si vous traitez un problème à 11h le soir, et que ça soit un petit peu tendu. Bonjour les dégâts. Hein. Mais il vaut mieux, quelquefois, eh bien, faire les choses posément, réfléchir, et c'est mieux de le faire à tête reposée, surtout que la nuit porte conseil. Hein. Mais quelquefois, nous sommes tellement à cran, on pourrait dire, parce que la fatigue engendre des incompréhensions, toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions, voire même des réactions violentes. Et il faut savoir s'arrêter avant un clash. C'est une question de sagesse. Et Jésus nous dit bien, enfin, c'est l'apôtre Jacques qui nous dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Donc nous avons tout à notre disposition. Et puis la fatigue, dans nos impatiences et dans nos découragements, nos désillusions, nos espérances qui ont été non pas trompés, mais nos espérances qui ont été à contre-temps. Parce que ça ne veut pas dire que quand Dieu dit rien, c'est ni oui ni non. Ça veut dire attends. Mais quelquefois, nous ne savons pas attendre en raison d'une impatience qui est là et qui monte et qui nous fatigue. Et plus nous nous impatientons, plus nous nous fatiguons. Et quelquefois, on peut fatiguer les autres, hein, naturellement. La fatigue liée à un état maladif, dépressif, on l'a dit il y a un instant. La fatigue dans tous nos épuisements dans les conflits. Quelquefois, vous savez, on est dans des situations qui nous amènent à être démoralisés, à être découragés, parce que nous sommes confrontés soit avec des collègues de travail, ou à des pressions professionnelles, ou alors dans la vie du couple, ou dans la vie d'une famille, devant des problèmes récurrents qui n'en finissent pas de mois en mois, d'année en année, et on finit par être fatigué, on n'en peut plus. Et on se dit, mais si je n'avais pas ça dans ma vie, mais ça serait autrement, ça serait autre chose, je pourrais vivre. Et ça fait partie justement, eh bien, de toutes ces choses dont nous avons fait un petit peu l'éventail, nous avons fait un petit peu le tour, Mais c'est aussi pour chacun d'entre nous, nos fatigues de l'existence. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Si nous reprenons tout simplement ce beau texte avant de terminer par un autre, quand il nous est dit dans Matthieu, je me trompe pas, c'est bien Matthieu, hein, chapitre 11, écoutez, là la solution nous est donnée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je viens avec mes fatigues. Tu les connais, tu sais de quelle nature elles sont. Je viens parce que je suis chargé, non seulement chargé, mais Seigneur, le ressenti que j'ai, c'est que je suis non seulement chargé, mais je suis écrasé. Quelquefois, ça se voit, hein, sur les visages, on voit des gens qui sont vraiment écrasés. Alors, Jésus nous dit, je vous donnerai le repos. C'est une promesse, elle est au futur. Et elle est une promesse pour tous les temps, pour tout le temps, pour maintenant. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme que je vous apporte. C'est la parole de Jésus, il est vivant, je vous l'ai dit, il est ressuscité. Alors, je vous donnerai le repos. À fatigue, Dieu répond, repos. Prenez mon joug sur vous, et pourtant déjà, prendre un joug, c'est quelque chose qui nous apparaît tellement lourd. Et je le rappelle pour les amis qui nous rejoignent, quand on met un joug entre deux animaux de trait, c'est pas pour qu'ils soient plus chargés, c'est pour qu'ils se déchargent l'un à l'autre du poids et de l'effort. Donc, il y a quelqu'un qui marche avec nous maintenant, si vous le souhaitez, si vous le désirez, c'est qu'à mes côtés, il y a Jésus. Et à mes côtés, Jésus prend la plus grande partie de la fatigue et de la charge. Et c'est comme ça que je peux marcher avec lui. Il marche en ma compagnie. Et en votre compagnie, si vous voulez, prenez mon joug sur vous, vous recevez ma parole, c'est ce que nous avons fait cet après-midi. Nous avons donné simplement et librement la parole de Dieu, recevez-la dans votre cœur, croyez-la particulièrement, car je suis doux et humble de cœur. Si vous marchez avec Jésus, vous verrez que il est vraiment formidable notre Jésus. Il est formidable notre Dieu. C'est pas un Dieu de répression, c'est pas un Dieu de condamnation, c'est pas un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui dit « venez à moi ». Et vous verrez que je suis doux, la douceur. On aime vivre avec des gens qui ont une douceur de caractère. Et je suis humble. Je suis pas pour m'élever au-dessus de tout le monde. Je suis pour marcher avec vous. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, la paix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et nous allons simplement terminer. Derrière cette parole, ouvrons donc le psaume 84. Et dans le psaume 84, il nous est dit ces deux versets, au verset 6 et au verset 13. C'est pour vous, mes amis, qui écoutez la parole cet après-midi. C'est la parole que Dieu veut vous donner comme une eau fraîche, venant d'une terre lointaine, pour ceux qui sont fatigués et chargés. Écoutez, ça commence par, comme dans le sermon sur la montagne, comme dans les béatitudes, ça commence par heureux. Vous êtes heureux si vous le croyez, vous êtes heureux si vous l'acceptez. Vous êtes heureux si vous avez le désir intense de le vivre. Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous êtes satisfait parce que vous ne savez plus où est votre route? Vous êtes désorienté? Vous êtes dérouté? Écoutez, ils trouvent dans leur cœur. Vous allez le trouver à l'intérieur de vous-même? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et puis je voulais citer le verset 13 également. Heureux, éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Eh bien écoutez, chacun d'entre nous, nous avons été exposés à la parole de Dieu. Ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas tout ce que vous pourriez penser, mais c'est un message du Seigneur à l'adresse de tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés, et de pouvoir déposer votre fardeau, comme Pierre le dit dans son épître, dans sa lettre. Pierre dira, « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et j'espère que vous allez ressortir de ce lieu. Peut-être vous êtes venu avec des questions, avec des interrogations, avec des perplexités, avec toutes sortes de tracas qui vous tourmentent, peut-être un problème de culpabilité, à travers toutes sortes de choses qui vous oppriment et qui vous oppressent, et que vous allez ressortir rafraîchi, parce que le Seigneur nous a donné cette eau fraîche. Croyez que la parole de Dieu, c'est une parole de vérité pour chacun d'entre nous, et que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement terminer en remerciant Dieu. Et nous allons prier pour qu'il y ait une bénédiction particulière sur votre existence, sur votre vie, et vous allez repartir dans la joie et l'allégresse. Merci Seigneur, parce que ça c'est la marque de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que je viens à toi tel que je suis. Seigneur, c'est vrai, Père éternel, tu connais mon histoire, mon passé, ma vie, mes erreurs, mes fautes. Mais Seigneur, tout cela, je les dépose à tes pieds, parce que c'est trop lourd. C'est une charge énorme. C'est ce qui me rend malheureux. Seigneur, je viens vers toi parce que mon corps est malade, je souffre, j'ai des douleurs, j'ai des souffrances. Et je crois qu'en effet, Seigneur, tu es venu pour me guérir. Tu l'as montré tant de fois à travers l'Évangile, à travers un boiteux qui marche, à travers un aveugle qui voit, un sourd qui entend, voire même des choses extraordinaires, plus extraordinaires, des morts qui ressuscitent. Seigneur, nous voulons croire que tout cela, Père éternel, c'est une réalité. Et puis, nous voulons également, Seigneur, te remercier parce que nous sommes dans un monde où la pression morale, la pression psychologique est tellement imprégnée, Seigneur, à notre culture, à notre société, à notre civilisation, qu'il y en a beaucoup qui sont sur le bord de la route et qui sont là, Seigneur, exsangues, qui sont là tellement dans un état d'épuisement qu'ils ne veulent plus aller plus loin, Seigneur, et parfois même, eh bien, tombant dans une dépression latente, chronique, voire même peut-être n'envisageant plus de vivre et de faire le geste fatal pour ne plus avoir à souffrir, Seigneur, parce qu'ils sont fatigués de souffrir. Seigneur, dans le nom de Jésus, ta parole est une lumière. Ta parole est un message extraordinaire. Ta parole, Seigneur, eh bien, s'adresse à des hommes fatigués et chargés. Ta parole s'adresse à chacun d'entre nous et Seigneur, je viens vers toi. Je te demande, Seigneur, que tu me pardonnes de toutes mes fautes. Et peut-être parmi les premières fautes, l'inquiétude, le tracas, me chargeant moi-même, Seigneur, de fardeau, où tu voudrais tellement que je me décharge. Tu nous dis ne vous inquiétez de rien. Faites part à Dieu de vos problèmes et de vos soucis, avec des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. Et nous savons que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ça le vrai repos. Seigneur, je viens à ton repos et merci pour cette eau fraîche. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes, Seigneur, eh bien, une nouvelle force, de nouvelles forces, une nouvelle énergie, Seigneur. Et maintenant, je ne veux pas seulement regarder vers la terre, mais je veux regarder vers le ciel, parce que c'est de là que viendra mon secours. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.